Alors, comment elle s'appelle la paracha de cette semaine?
Balak.
Et qui sont les deux goyim? Un, il s'appelle Balak et l'autre, il s'appelle
Bilam.
Bilam, c'est un personnage un peu difficile à saisir. Il était comment ce Bilam? C'était un quoi? Un prophète. Un prophète, c'est un homme religieux ou pas religieux?
Religieux.
Il est censé d'être religieux. Il est censé d'être religieux. Il est censé de recevoir des messages de l'au-delà. Et quel était son désir?
D'être Israël, non?
De maudire les Juifs.
C'est pas Balak qui lui a dit de maudire les Juifs?
Oui, c'est Balak qui lui a demandé de maudire les Juifs. Je te donne d'argent si tu maudis les Juifs. Et lui, il voulait se laisser instrumentaliser. Ah oui, ça m'arrange bien que tu me donnes quelques millions et je ferai le sale boulot. Mais au début, il a bien dit que quoi? Je ne ferai rien contre Dieu. Connaissez un peu la paracha. Il a dit à Balak, il a dit au ministre de Balak, je ne peux pas parler contre Dieu. Il faut que Dieu est d'accord avec moi. Je ne peux parler que ce que Dieu met dans ma bouche. Donc, il était conscient qu'il a un patron au-dessus qui s'appelle Dieu. Et il a aussi su que Dieu a choisi le peuple juif, il a béni le peuple juif. Tout au début, quand les ministres de Balak sont venus, « Bonjour, monsieur Bilam. » Balak, il a très peur que les juifs, ils vont lui faire la guerre, ils vont le massacrer. Viens, maudit les juifs. Il leur a dit, « Attendez la nuit, je consulte Dieu s'il est d'accord. » Dieu est venu, il a dit, « Je ne veux pas que tu maudis les juifs. Les juifs sont bénis, je ne veux pas que tu les maudis. » Le matin, Bilam, il dit, « Monsieur, Dieu ne veut pas que je les maudis. Je ne peux rien faire contre Dieu. » Alors, ils sont venus une deuxième fois, des gens. Ils ont insisté. Il a dit, « Je vais consulter une deuxième fois Dieu. Dis-moi, Dieu, je ne peux pas aller maudire. » Alors Dieu, il a dit, écoute, tu veux aller, ah, vas-y, mais tu parleras ce que moi je te mets dans ta bouche. Il leur a dit, je ne parle que ce que Dieu met dans la bouche. Mais il espérait que quoi? Que Dieu mettra quelle parole dans la bouche? Les paroles de malédiction. Alors il était quoi? Il était en contact avec Dieu et pourtant farouchement opposé au peuple juif. Il ne supportait pas les juifs. Pourquoi? Parce que les juifs lui ont fait.
Parce que c'est un gars, il a que cette mitzvot et pas les juifs sont plus, ils ont 613 mitzvot, non?
Oui, alors pourquoi il ne les supportait pas? Il est en contact avec Dieu et il n'aime pas les juifs. Pourquoi? Qu'est-ce que les juifs lui ont fait? Alors tu dis que les juifs, ils ont fait plus de mitzvot.
Ils ont
plus de mitzvot. Alors? En quoi et pourquoi ils supportent pas, hein?
Ils ont plus de mérite.
Ils ont plus de mérite que lui. Donc comment on appelle ce sentiment? Hein? Jalousie. Il était jaloux des Juifs. À partir de quel moment voit-on l'opposition de Bilam vis-à-vis des Juifs? Ça a commencé à quel moment? Alors c'est très intéressant. Il est écrit dans la Torah qu'à Paro, au début, quand il a vu les Juifs se multiplier, alors Paro, il était inquiet. « Ouh là là, les Juifs se multiplient trop. Comment je vais faire? Je ne veux pas qu'il y ait trop de Juifs. » Alors il a dit, « Il faut tuer les enfants qui naissent. » Oui? Qui lui a donné ce conseil? On nous raconte que c'est Bilam qui lui a conseillé. Bilam, il a dit, « Je te conseille de liquider les enfants, les garçons, dès la naissance. » Ça veut dire que Bilam était déjà contre le développement du peuple juif. Il sentait déjà une espèce de concurrence qui lui fait de l'ombre. Des fois, il y a un élève en classe, il est brillant, il rafle 20 sur 20. Alors, il y en a d'autres, oh là là, celui-là. Et si en plus, il se met bien avec le prof, alors on l'appelle comment? Ah, les faillots. Eh bien, les Juifs, ils ont Abraham, Israël, Yaakov, ils se mettent bien avec le patron au ciel. Ah, les faillots, et eux, ils vont être les gentils, les surclassés, ils vont nous surclasser. Ils sont pas, mais on ne sait pas pourquoi. Hein? Mais pourquoi vraiment? Qu'est-ce qui se passe, cache dans le bilan? Pourquoi il est si jaloux des Juifs? Nous allons voir bientôt. En tout cas, lui donnait le conseil de liquider les enfants. À la fin, les Juifs ils se sont multipliés, et un grand peuple est sorti d'Égypte, et le projet de Bilam est tombé à l'eau. Alors, Bilam, qu'est-ce que le gêne vraiment chez les Juifs? Parce qu'ils ont plus de mitzvot. Quand Bilam il est parti voyager, il voyageait sur un vélo, sur une moto ou avec le TGV?
Sur une ânesse.
Hein?
Il voyageait sur une ânesse.
Sur une ânesse. Pourquoi il n'a pas pris son vélo? Hein? N'existait pas. Il a pris son ânesse. Mais les gens, normalement, ils voyagent sur une ânesse ou sur un cheval ou sur un chameau? Comment les gens dans l'Antiquité? Hein? Les gens importants, les gens qui ont un peu du fric. L'ânesse, c'est pour les pauvres des pauvres. Un homme cultivé, un homme avec de l'argent, il s'achète un cheval. Pourquoi les types, ils voyagent sur une ânesse? Bon, on verra après. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? La Torah nous raconte, il a mis une selle dessus. Oui, vous connaissez le texte? Vayachavosh et chamoro. Il a mis une selle sur l'ânesse. Pourquoi il a mis une selle sur l'ânesse?
Sans
selle. Il ne faut pas voyager sur une ânesse sans selle. Comme ça, elle est marquée. Elle a mis une selle. Je suis religieux comme Abraham, qui est très, très religieux. Abraham aussi, il a mis une selle sur son âne. Très bien. Et il se met à voyager. Sur la route, il y a un ange qui se présente devant l'ânesse. Et Bilam, il ne voit rien. Mais l'ânesse, elle voit. Elle voit l'ange avec une épée tirée. Oui, l'ânesse, elle dit, il va me tuer. Qu'est-ce qu'elle fait l'ânesse? Elle rentre dans un champ. Et Bilam n'a rien vu. Bilam, il voit que son ânesse ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait Bilam?
Il tape.
Bon, premier épisode. Deuxième épisode, on passe une vignette, un mur à gauche, un mur à droite, et c'est étroit, et l'ange se met devant l'ânesse. L'ânesse, elle voit, je ne veux pas me faire tuer, elle essaye de contourner, elle coince les pieds de Bilam, elle m'a coincé les pieds, et il frappe une deuxième fois son ânesse. Bon, troisième épisode, la route, elle est comme ça, étroite, l'ange se met devant lui. On ne peut pas passer, même si on coince les pieds. Qu'est-ce qu'elle fait, l'ânesse? Elle se met à plat ventre. Et Bilam, il pique une crise et il frappe comme un malade. Alors l'ânesse commence à parler, comme dans un film de Walt Disney. Commence à parler. Et l'ânesse, elle ouvre la bouche et elle dit, « Mais pourquoi tu me frappes? Ça fait trois fois. Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Alors Bilam dit, parce que tu m'écoutes pas, ça fait trois fois que tu t'es rebelle. Les gens qui étaient autour, tous les ministres de Moab, qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils voyaient qu'ils parlaient avec l'ânesse? Le type, il parle avec une ânesse qui parle, mais c'est merveilleux. Waouh, il est en train de parler avec l'ânesse, elle répond. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors l'ânesse, elle a dit, dis-moi, il fallait pas me frapper comme ça. Est-ce que j'avais la coutume de te faire ainsi, de pas t'écouter? Puis elle me dit, non, tu n'avais pas la coutume. Et le dialogue avec l'ânesse s'arrête. À ce moment-là, Dieu, il ouvre les yeux de Bilam, et Bilam, il voit l'ange. Ah, il y a un ange devant. Ah, c'est pour ça l'ânesse s'est rébellée. Il descend de l'âne, et il se prosterne devant l'ange. Alors, il dit, monsieur ange, je ne savais pas que vous êtes ici. Alors l'ange a dit, je suis venu parce que je ne voudrais pas que tu continues. Alors Bilam il dit, mais Dieu m'a permis. Alors il dit, bon alors pars, tu veux, eh bien, tu pars. Dieu l'a envoyé un ange pour lui sauver la vie, pour qu'il arrête ses bêtises. Mais il ne voulait pas tenir compte de ces avertissements. Alors l'ange dit, bon si tu veux, tu veux aller, mais tu verras comment finirait l'histoire. Maintenant je vous pose une question. Vous avez déjà vu et entendu une ânesse parler? Est-ce qu'il existe dans la Torah une autre histoire d'une ânesse qui parle? Hein? Oui. Est-ce qu'il existe dans la Torah une deuxième histoire d'une ânesse qui parle, ou un chameau qui parle, ou un cheval qui parle?
Non.
Ça n'existait pas. Que ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette ânesse a dit quelque chose d'exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien de banalité, elle a dit. L'ânesse, elle a dit, dis-moi, pourquoi tu me frappes trois fois? Est-ce que j'avais la coutume de te désobéir? Mais l'homme a dit non. Mais c'est d'une banalité. Quand Dieu fait un miracle, il ne le fait pas pour rien. Il le fait pour enseigner quelque chose de très important. Mais quelle est l'importance de la parole de cette ânesse pour que Dieu fait un phénomène unique dans toute l'humanité, une ânesse qui parle, un animal qui parle? Mais qu'est-ce qu'elle a dit de si génial? Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit comme génial? Elle a dit quelque chose de terrible, quelque chose d'ahurissant, quelque chose qui est tout le monde se rebelle contre ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut savoir lire le texte. La Gemara nous apprend à lire ce texte. Le texte, il est codé. Dans le texte, il est écrit que l'ânesse, elle a dit « Halo anochi atoncha asher achavta alai meodecha ad hayom hazeh haasken hiskanti lasot lechaku » Je traduis. « Halo nespa anochi atoncha » Moi, je suis ton ânesse. Asher achav ta'alai, que tu as chevauché sur moi. Mais odi ad hayomaze, depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui. Asken iskanti la sot lachako, j'avais la coutume de te faire ainsi, de se rébeller. Et Bilam il dit non. Qu'est-ce qu'elle contient ces paroles? Elle contient un grand secret. Quand il a frappé comme un malade l'ânesse, les ministres, ils étaient autour. Les ministres ont dit à Bilam, « Mais monsieur le prophète, vous êtes un peu un rigolo, vous. Pourquoi vous prenez une ânesse qui se rebelle? On vous a dit que le roi Balak vous paye beaucoup d'argent de nous accompagner pour une mission importante, et vous prenez, c'est comme quelqu'un qui prend une voiture qui n'a pas de frein, le moteur ne marche pas bien, les pneus ne sont pas gonflés. Pourquoi vous prenez une ânesse idiote qui se rebelle? Pourquoi vous n'avez pas pris votre cheval? » Alors il est dit, la Gemara raconte, Bilam il a répondu, « Oui, je voulais prendre mon cheval, mais le cheval par hasard, il était parti à la forêt pour brouter, et j'étais pressé, donc j'ai pris une ânesse. » Comme ça il avait dit. L'ânesse a pris la parole et dit, « Non monsieur, vous avez la coutume d'être sur moi. » Ce n'est pas la coutume du cheval. Vous avez la coutume de chevaucher sur moi. Alors il a dit, non, mais ça c'est que dernièrement. Alors l'ânesse lui dit, non, monsieur, Rahav ta'alai, tu as la coutume de chevaucher sur moi toute la vie déjà. Les ministres ont fait des grands yeux. Quoi, ce grand bonhomme millionnaire? Il chevauche toute sa vie sur une ânesse, pas sur un cheval. Mais pourquoi? Il est amoureux de son ânesse. Mais qu'est-ce qu'il a avec cette ânesse? Alors Bilam, il a répondu, « Oui, je te prends pour mettre des bagages dessus. » Elle a dit, « Non, monsieur, pas pour le bagage. Toi-même, tu es sur moi. » Les ministres, ils ont dit, « Pourquoi il chevauche sur une ânesse? » Maintenant, il arrive quelque chose de terrible. Elle a dit, « Ha hasken iskanti, la sot lechako. » Le mot « hasken » a un double sens. Un sens, c'est ce que j'ai la coutume de faire. Mais le mot « hasken » a un deuxième sens. Quel est le deuxième sens? C'est que... Quoi?
Aller avec.
Bilam, il est allé avec son ânesse. C'était sa fiancée, c'était sa femme. Il a fait une perversion abjecte. Il a vécu toute sa vie avec une ânesse. C'était un homme pervers. Il a fait la plus grande perversité. Un homme, il peut se marier avec une femme, c'est normal. S'il est pervers, peut chercher une autre femme. S'il est encore plus pervers, Bar Minan, il peut chercher vivre avec un garçon. S'il est encore plus pervers, il peut prendre des enfants, Bar Minan. Et encore la plus grande perversité qui existe, un homme avec un animal. Et Bilam, cet homme qui se fait passer pour le plus grand prophète, l'homme le plus intelligent du monde, l'homme le moraliste, il était un malade mental, un pervers. Pourquoi il a fauté avec une ânesse? Les gens qui veulent fauter, normalement, ils fautent avec une femme, ou encore pire, avec un homme. Pourquoi avec une ânesse? Mais ça ne va pas dans le cerveau. Vous savez pourquoi il a choisi une ânesse? Hein? Elle voulait de lui. Les animaux ne sont pas malades, c'est les hommes qui sont malades. Les animaux ne sont pas malades. Pourquoi? Parce que c'était un homme arrogant, dit la Mishnah. Un homme fier de lui. Il avait peur que s'il va fauter avec un homme ou une femme, peut-être eux, ils vont le raconter aux gens, divulguer. Et il sera la risée de toute la ville. Imaginons-nous, il va faire l'adultère avec une femme en cachette. Et après, la femme, elle va dire, « Oui, enfin, quand ce monsieur, ce prophète, c'est un faux jeton, c'est un malade, il m'a touché. »« Ah bon ?» Il va le marquer dans le journal. « Ce monsieur, aïe, 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 je ne veux pas que les gens ils parlent mal de moi. » Donc, s'il faut avec un homme, avec une femme, avec un enfant, ils peuvent parler. Mais il était sûr, il y en a un qui ne peut pas parler. C'est qui? Un animal ne parle jamais.
Pourquoi spécialement l'ânesse alors?
Ah, ça, je ne sais pas.
Tu peux voyager avec.
On peut voyager avec. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial à l'ânesse. Ça, je ne sais pas. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, c'est elle qui ne parlera pas. Je peux rester un pervers et personne ne va savoir. Et qu'est-ce qu'Hachem il a fait avec la bouche de cette ânesse? Elle a ouvert la bouche, elle a craché. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Est-ce que vous connaissez mon ami Wikileaks? Wikileaks. Pas Lucky Luke.
C'est le site qui donne des informations.
C'est un site internet qui donne des informations politiques, des secrets. Par exemple, M. Macron, c'est qui M. Macron?
Président.
Il va envoyer un mail à M. Poutine. Il va envoyer un mail secret, il ne veut pas que les gens y savent. Il y en a des gens derrière, on les appelle les hackers. Hein? Ou Anonymous, ou Assange, il y a toutes sortes. Un hacker, il rentre dans l'ordinateur de l'autre et il dit, ah, M. Macron, il a envoyé un mail à M. Poutine pour... Et il le met sur Internet et le monde entier peut voir. Ils ont des millions de documents confidentiels des États, ils ont dévoilé. Plus que ça, il y a des gens privés. Il écrit une lettre à une copine, ou un SMS, ou un mail. Il fait, il y a des gens, il écrit un mail à une petite copine, elle lui répond, mais c'est secret, hein, tu racontes à personne. Chut. Ou je vais voler quelque chose, j'ai un petit copain, demain on va aller à la Banque de France, on va la voler, d'accord? Bon, tu amènes les explosifs, moi j'amène des revolvers, lui va s'associer, tu vas faire la guette, et on s'écrit des mails. Mais lui, il est malin là-bas, c'est un hacker. Qu'est-ce qu'il peut voir ce que nous écrivons? Et demain, il est capable d'écrire sur Internet, voilà le dialogue entre mon ami et truc, tu vas amener des explosifs et demain truc. Les terroristes là qui veulent faire des attentats en Belgique, en France, en Angleterre, partout, ces trucs, ils sont en communication avec d'autres personnes, par SMS, et par téléphone, et par mail. Et la police, ils cherchent, ils fouillent. Et c'est pour ça, souvent, ils attrapent les terroristes avant qu'ils ne fassent pas son forfait, son attentat. Pourquoi? Ils l'ont vu, ils viennent d'envoyer un mail. Bon, demain matin, à la gare de Bruxelles, voilà, tu vas me rendre... Et la police l'attrape. Donc, le fait qu'on dévoile les saletés, les projets... L'imbécilité, la méchanceté de ces gens-là, les gens, ils ne peuvent plus le faire. Ici, la Torah nous parle d'un Bilam, c'est un grand philosophe, c'est un grand penseur, un grand poète, un grand conseiller politique, marqué dans Chumash tout ça. Il conseillait les chefs d'État. et il détestait les Juifs. Alors les gens, ils disent, un grand philosophe comme Bilham, un homme de Dieu, un prophète, il ne supporte pas les Juifs. Eh bien, ils doivent être tordus, les Juifs. Si un grand philosophe, il dit, je voudrais maudire les Juifs, ça, il doit sûrement savoir que les Juifs, c'est un peuple qui mérite une malédiction. Alors donc, faisons l'antisémitisme et on s'appuie sur le grand philosophe Bilham. Alors Dieu, il a dit, ah, tu crois que tu vas rouler les gens dans la farine? Eh bien, je vais dévoiler qui tu es. En vérité, les Juifs, ils étaient 1000 fois mieux que lui. Ils n'étaient pas pervers, les Juifs, mais lui était pervers. Et le pervers, il est jaloux de ce qui est droit. Un voleur, il n'a pas tellement peur d'un autre voleur qui va le balancer. Mais il a peur de qui? D'un honnête. Quand deux voleurs, ils sont sous le même... Nous deux, on a volé hier, tu te rappelles? Mais tu vas pas le raconter, tu vas te salir toi-même. Tu vas pas dire sur moi, je te dis pas sur toi. Mais vous écoutez pas, hein? Je parle avec lui, hein? Vous n'avez pas à écouter. Tu vas pas le dire à personne, moi je vais pas le dire, parce qu'on est sous la même couverture. Mais lui qui n'est pas sur la même couverture, lui il est capable de le balancer. Donc nous, quand on parle, on se méfie que lui n'écoute pas. Donc les voyous, ils ne veulent pas que les gens honnêtes les entendent parler. Donc ce Bilham, il était pervers, mais il voyait que les Juifs, c'est un peuple saint, c'est un peuple bien. Il a dit, ces Juifs, ils vont se mettre avec Dieu, Dieu va les aimer eux, et nous, on va être les idiots. C'est comme dans une classe, il y en a un qui fout la pagaille, il ne travaille jamais. Alors le prof, il s'énerve. Alors il dit, toi, tu ne travailles jamais, regarde celui-là, comment il travaille bien. Donc, qu'est-ce que moi que je ne travaille pas? Je dis, souhaite le mal qu'il rate le prochain truc. Comme ça, il va arrêter de prendre l'autre comme exemple. Je voudrais que tout le monde fait nul comme moi. Comme ça, je suis un bon... Comme ça, on ne va pas m'accuser. Tout le monde est nul. Je suis aussi nul. Mais si tout le monde est bien, moi, je suis un nul. Je ne me sens pas bien. Donc, les gens pervers, ils auraient voulu que tout le monde y soit pervers. Ça, c'est ce que Bilham, il souhaitait. Mais le monde doit savoir qui sont ces gens-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hackers. Aujourd'hui, les choses, ils se savent. Tu parles ici, il y a des gens en face qui l'entendent. C'est enregistré, c'est vu de plus en plus. Et les gens, ils crachent après ça. Les gens, ils crachent. Il y avait une femme, elle était prof dans une école. Pas loin d'ici, hein? Elle n'est pas juive. Elle était prof dans une école. Cette femme... Elle a fait une petite bêtise. Elle a une copine. Elle a envoyé sa photo à une copine. Mais la photo, elle était... Hein? Elle a envoyé à sa copine une photo quand elle était dans la salle de bain. Alors, il y en a un hacker qui est rentré. Il a vu la photo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur Facebook la classe où elle enseigne. Alors, lundi matin, cette prof, elle vient, elle rentre dans classe, elle avait, je ne sais pas, 25 élèves, et ils ont éclaté de rire. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Et ils ont rigolé. Mais qu'est-ce que vous avez? Ils se tordent de rire, ils tombent par terre. Mais madame, qu'est-ce que vous avez? Mais madame, ils s'en foutent, je suis fou, hein, eux, ils s'en foutent. Mais la photo, mais de quelle photo? De quoi vous parlez? Mais on vous a vu. De quoi ils parlent? Mais madame, la photo que vous envoyez à... Ah, je sais pas... Evelyne, Simone, je sais pas quoi. Et puis... Et après, il y en a un élève qui jette la photo. Bon. Elle prit ce clic et éclair qu'elle est partie. Première partie de l'histoire. Deuxième partie de l'histoire. C'est quoi la deuxième partie de l'histoire? Elle s'est suicidée. Le soir, hein?
C'est une vraie histoire.
Une vraie histoire.
Et après, je recèque son mari.
Non, 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 pas un essai juif. Pas un essai juif. Le soir, le mari arrive à la maison, elle est pendue, elle s'est suicidée. Ça, c'est assez... Ça, c'est phénoménal. B. Bilam ne savait pas que cette ânesse va ouvrir sa bouche. Vous connaissez cette Mishnah dont Pirkei Avot, 10 choses ont été créées à la veille de rentrée du premier Shabbat. Dieu, il a créé le monde pendant combien de jours?
6
jours, après il y avait Shabbat. Alors, chaque jour, il a créé quelque chose. À la rentrée de Shabbat, à la fin du 6e jour, entre vendredi et Shabbat, pile à la rentrée de Shabbat, il a créé encore combien de choses? 10. Une des 10, c'est quoi? Pi ha'aton, la bouche de l'ânesse. Dieu, il a créé 10 miracles. Le fait que dans 1000 ans, 2000 ans plus tard, il y aura une ânesse avec Bilam dessus et l'ânesse va ouvrir la bouche, elle va parler. Ce miracle a été prévu. Ce miracle d'Alanès a été créé par Dieu à la création du monde. Pour nous enseigner quoi? Parce que le monde a été créé pendant 6 jours après Shabbat. Et la Ramban, il dit, ça fait allusion à 6000 ans et après le 7e millénaire. Le monde passe pendant 6000 ans. Et après le 7e millénaire, les gens ils font plus des bêtises. Les gens, ils vont se comporter bien. Pendant 6000 ans, il y a Yetzeratov, il y a Yetzerara, on fait une mitzvah, on fait une avera, de fois Yetzeratov est plus fort, de fois Yetzerara peut embrêter les gens. Le 7e millénaire, tous les gens, ils vont se comporter bien. Et à la rentrée de Shabbat, Dieu, il a créé, Shabbat, c'est le 7e millénaire, à la rentrée, Dieu, il a créé la bouche de l'ânesse. La bouche de l'ânesse, elle va cracher. Et si les gens, ils vont être dévoilés. Les gens, ils vont être dévoilés. Alors, il y a quelque chose de très inté. Fini ma phrase. Quelque chose de très inté. Récent. Voilà, il sait. À la fin de la paracha, vous connaissez l'histoire de la fin de la paracha? Quand Bilam, il donnait un conseil diabolique. Comment on peut faire du mal au peuple juif. Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil?
Il y a un quart de seconde dans la journée où Dieu s'énerve et c'est ce moment-là où il faut...
Non, mais ça n'a pas réussi. Je parle après cette histoire, après ça. Quand il n'a pas réussi à maudire, hein, il a dit on va pervertir les juifs. Il a loué des filles de Midian.
Les gens, ils croyaient encore.
Quoi?
Les gens, ils croyaient encore.
Pas les juifs.
Non, les gens.
Les gens de Balak, ils savaient plus, ils savaient que c'était un pervers, mais il était intelligent comme un diable, et on écoutait ses conseils quand ça leur arrangeait. Ils voulaient à tout prix faire du mal aux Juifs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué des filles de Moab. Les filles de Moab sont venues, et on a demandé aux filles, séduisez les garçons juifs. Vous savez comment était fait le système de séduction? Il y avait des marchés, ils ont fait des, comme au marché, on fait des petits stands. Alors, ils ont mis des petites cabines avec des stands de vendre des tissus. Alors, ils ont mis une femme devant, une vieille femme. Elle a vendu des tissus. Alors, ils ont fait beaucoup de stands comme ça, je ne sais pas, des milliers de stands. Et les juifs sont venus, et cette femme, elle vend des tissus bleus, rouges, verts, jolis, grands, petits. On peut acheter, ça fait 40 ans, les Juifs n'ont rien vu, il n'y avait pas de magasin. Dans le désert, il n'y avait ni Auchan, ni Carrefour, ni Boulanger, ni Miniprix, Monoprix. Maintenant, à la fin des 40 ans, il y a quoi acheter? Ouh, tout le monde dit, c'est jeté. Combien ça coûte, madame? 20 euros. Alors, à l'intérieur de la maison, il y a un jeune qui dit, moi, je vous le donne pour 10. Ah, on peut avoir pour moins cher. Il rentre dedans. Celle-là qui était à l'extérieur, c'était une vieille moche. Celle-là de l'intérieur, elle était un jeune, elle m'a habillé. Alors il rentre dedans. Quoi, on peut avoir ça pour 10 euros? Oui, pour avoir ça pour 10 euros. Vous voulez pas un verre de vin, monsieur? Un verre de vin? Pourquoi? Ça coûte? Non, gratos. Ah, gratos, gratos. Elle donnait, ils ont préparé du vin. Et le type, il boit du vin, et ce vin fort, ça commence à tourner la tête. Après, cette fille se déshabille, elle dit, viens faire une bêtise avec moi. Et le type, la tête, il tourne, et il fait une bêtise. Et il y avait des juifs qui bêtisaient. Alors après, le texte, il dit, après, Et ils ont demandé aussi de faire l'idolâtrie Baal Peor. Ils ont demandé, maintenant vous allez servir un autre Dieu. Fous qu'ils étaient, ils avaient peur de la tête, ils sont en faveur de Zora. Bon, après, Moshe Rabbein, Hachem, il dit à Moshe, ceux qui ont fauté, il faut les éliminer. Moi, j'ai dit, moi, je sais qui a fauté, qui n'a pas fauté, comment moi, je sais. Vous savez qu'est-ce qu'il est marqué dans le texte? Tu les présentes en face du soleil. Alors, Rashi raconte qu'il y avait des nuages. Il y a soleil, il y a des nuages. Alors, il y avait, je ne sais pas, 1000 personnes. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit au soleil, recule un petit peu, en nuage, recule un peu, et laisse passer le soleil sur le visage de lui, et de lui, et de lui, ce qui a fauté. Alors, tous les gens, ils sont là. D'un coup, un visage, il est illuminé parce que le nuage se pousse un peu, le soleil tape sur lui, et sur lui, et sur lui. Alors, Hachem, il a dit à Moshe, tu vas, tout ce que tu vas, le visage illuminé, il a fauté. Et comme ça, il savait. Qu'est-ce que ça nous apprend comme leçon? Ça, c'est comme Wikileaks. C'est comme les hackers. Quoi? À la fin, on va le savoir. Il y a des gens qui veulent voler. Vous savez qu'il y a des voleurs dans le monde. Il y a des truands. Il y a des manipulateurs. Imaginons-nous, je vais faire un image. Pas toi, c'est pas toi. C'est pas de chez nous. Imaginons-nous qu'un homme... Il est truand. Vous savez qu'est-ce que c'est Panama? Vous savez qu'est-ce que c'est un paradis fiscal? Hein? Alors, il y a des gens qui gagnent d'argent, mais ils ne veulent pas payer des impôts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cache, on pose l'argent quelque part. Ministère d'entreprise. Alors, écoutez bien. Un homme, il gagne d'argent. Et l'argent, il ne veut pas payer des impôts. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut planquer quelque part l'argent, ouais. On le planque quelque part. Mais il ne faut pas que le fisc le sait. Mais il faut que je sache où je le planque, donc je mets mon ordinateur. Alors je l'écris quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Je vais l'envoyer à quelqu'un, un ami. Et un hacker, il vient, il va dévoiler. Comme ça, ils ont trouvé beaucoup de gens. Il y a un pays qui s'appelle le Panama. Dans ce Panama, il y a beaucoup de gens qui ont envoyé leur argent dans ce pays Panama. Et ils ont trouvé là-bas des milliards cachés. À la fin, ça sera dévoilé. Tous les gens qui trichent, à la fin, ça arrive sur la place publique. Et ces gens-là, après, ils payent une amende. Des fois, c'est une petite amende. Des fois, c'est une grande amende. Des fois, c'est de la prison. Des fois, c'est le déshonneur. Plein de choses. Les choses se dévoilent. Faire les choses en cachette, il ne faut pas faire des choses en cachette. Il ne faut pas faire. Et c'est pour ça, dans Shlomo HaMelech, il dit, à la fin, sauf davar, hakol nishma. À la fin de tout, tout va être su. Tout va être connu. C'est pour ça, Yere Elkim met mitzvotav shemo. Crains Dieu et garde les mitzvot. Il y a des gens qui disent, je crains pas Dieu, mais je crains les gens. De Dieu, j'ai pas peur. Mais des gens, j'ai peur. Mais si je me cache devant les gens, je peux faire des bêtises. Shemel Redi ne raisonne pas comme ça. Crains Dieu. Parce qu'à la fin, tout va être su. Si tu mens, à la fin, on va savoir que tu as menti. Ça va sortir quelque part. Des fois, dernièrement, il y a un enfant, il ne voulait pas partir à l'école. Il voulait faire l'école, comment on appelle ça? Missionnaire. 3 jours, il n'était pas à l'école. Le directeur de l'école, il téléphone à la mère. Et, madame, votre fils n'est pas venu depuis 3 jours à l'école. Non, l'histoire, elle était. Il est revenu et le directeur, il a dit, où tu étais? Et il a dit, j'étais à la maison. J'étais, je sais pas, malade ou je sais pas quoi, je pouvais pas venir. Alors il dit, apporte un papier de papa et de maman. Alors, il dit non. Il dit, tu es obligé? Va à la maison, amène le papier. Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi tu peux pas? Eh, maman va pas me faire ce papier. Pourquoi elle te fera pas ce papier? Elle comprend rien. Alors, il prend le téléphone. Bonjour, madame. Bonjour. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous allez m'envoyer un papier que votre fils était malade. Mon fils malade. Pourquoi? Mais votre fils était 3 jours chez vous à la maison malade. Mais pas du tout, il était à l'école. Mais non, mais il n'était pas à l'école. Mais bien sûr, mon fils me dit ce matin, il est parti chaque truc, il est revenu le soir, il était à l'école. Mais je vous dis qu'il n'était pas à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était, je ne sais pas, j'ai un copain, je ne sais pas où. On va se mettre dans la tête de ce garçon. Qu'est-ce qu'il s'imaginait, ce garçon? Hein? J'entends pas.
Qu'est-ce qui s'est passé au passé?
Il va se faire non, oui, bon, mais je dis, qu'est-ce qu'il s'imaginait? Je ne vais pas à l'école. Et je vais me débrouiller. Comment te débrouiller? Mais l'école ne va pas remarquer, maman ne va pas remarquer, je vais mentir. À l'école, je dis j'étais à la maison, je dis je suis à l'école. Je mange chez lui, je mange chez lui, mais à la fin, le directeur de l'école avec maman vont se mettre d'accord. Et on va dévoiler le pot rose. À la maman, tu dis tu es à l'école, tu dis tu étais malade. À la fin, ça va éclater. Et après, tu auras des problèmes. Comme ça, c'est dans toute la vie. Toujours, c'est comme ça. On croit, moi, je suis intelligent. Moi, je peux voler, je ne me fais pas attraper. Tous les voleurs qu'on attrape, ils sont bêtes, dis-moi. Moi, je ne vais pas échapper, mais tous les jours, on attrape des voleurs. Oui, tous les jours, on attrape des voleurs, mais les gens avant toi aussi, ils ont pensé la même chose. Et aujourd'hui, avec les moyens techniques et de communication, ça se dévoile de plus en plus. Ça, c'est la leçon de cette ânesse. L'ânesse, à la fin, elle a parlé. À la fin, quelque chose va parler que tu n'as même pas imaginé que ça peut parler. À la fin, vous connaissez Siri? Hein? À la fin, Siri va parler. Il va dire où tu étais. Vous savez qu'il y a un GPS dedans? Quand quelqu'un il se promène, tout est dans le GPS. Et on peut le sortir. Moi, j'étais pas à Paris hier. Tu n'étais pas à Paris. Jamais de la vie. Tu n'étais pas à Paris. Moi du tout. Et je vais te montrer que tu étais. Comment? Comme ça, tout est enregistré. C'est pour ça, la Torah demande, comporte-toi bien, dis la vérité. Comporte-toi droit. Comme ça, tu n'as pas besoin de te gêner de ce que tu fais. Moi, je fais que des choses bien. Moi, je fais des mitzvot. Moi, je fais des choses honnêtes. Moi, je suis bien avec les lois de la Torah, avec les lois des gens. Je n'ai rien à me reprocher. Vous voulez rentrer dans mon mail? Rentrez dedans. Vous allez trouver que des choses cachères. Vous allez trouver rien de sale, rien de mauvais. Mais si on fait des choses truc, à la fin, on va le savoir. Je ne veux pas qu'on sache. Comporte-toi bien. Il n'y a pas la meilleure chose que se comporter bien. Le plaisir de pouvoir dire la vérité et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte de ce qu'on a fait, c'est le plus grand plaisir qui existe. Shabbat shalom.